L'année prochaine, nous prévoyons un taux de croissance de 5,5% pour l'Afrique subsaharienne.
Le modèle que nous avons développé au Maroc, que nous souhaitons dupliquer en Afrique subsaharienne, c'est de s'ouvrir sur les classes moyennes, les fonctionnaires et les salariés, et les très petites entreprises et les PME-PMI.
On ne gagne pas. Tout le problème, c'est le non-paiement des salaires. C'est ça qui me fait mal. Si tu travailles, on doit te payer. Nous réclamons que ça, nos droits.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Frédéric Gara.
Seconde partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, toujours en compagnie de Frédéric Maury de la rédaction de Jeune Afrique et avec notre grand invité de l'économie, aujourd'hui Alexandre Villegrain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, Monsieur Villegrain, le PDG du groupe agroalimentaire Somdia, société spécialisée dans la production et la commercialisation de sucre, de farine, d'huile, d'œufs et de poulet. Votre groupe a fait en 2012 un chiffre d'affaires de 447 millions d'euros. Vous revendiquez 20 000 collaborateurs, dont 16 000 à temps complet en Afrique. Vous êtes également le patron des patrons français en Afrique, puisque depuis 2009, vous présidez le CIAN, qui est le Conseil des investisseurs français en Afrique et qui regroupe à peu près toutes les entreprises françaises qui opèrent sur le continent, la compagnie fruitière, Total, CFAO, Sogea Satom, BNP Air France, il y en a encore beaucoup d'autres. Vous revendiquez une centaine d'adhérents au total et c'est donc à ce double titre que nous vous recevons. Première question, quel est le rôle, quelle est l'action de votre organisation, le CIAN, en Afrique?
C'est un syndicat, c'est un club de patrons d'entreprises qui a une particularité. C'est un peu unique, parce qu'on ne retrouve pas ce genre de choses sur les autres continents, qui sont des sociétés qui ont des filiales en Afrique. Donc, qui, à ce titre, sont des groupes français, mais qui ont des filiales dans des pays d'Afrique, donc qui sont marocains quand ils ont une filiale au Maroc, nigérians, camerounais, sud-africains, mozambicains, madagascariens, malgaches. Pardon. Donc nous avons une double casquette. Nous sommes en même temps des Français, mais en même temps, nous sommes des gens qui avons des entreprises dans ces pays-là et qui nous devons d'être avant tout aussi, quand on est dans ces pays-là, de la nationalité du pays.
Depuis quelques années, il y a de plus en plus de pays, notamment de pays émergents, qui regardent l'Afrique, qui s'y installent, qui investissent. Et l'impression qu'on peut avoir, c'est que les entreprises françaises sont un peu en retrait par rapport à ce qu'elles ont pu être il y a quelques temps. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète?
Alors d'abord, c'est effectivement les entreprises françaises, en tout cas dans l'Afrique francophone, étaient très présentes et avaient un rôle extrêmement important. Donc c'est vrai que quand ces pays se développent avec un taux de croissance important, le marché s'agrandit. Et donc c'est clair que les entreprises françaises perdent un peu de part de marché. Mais en termes de volume, elles ne le perdent pas, elles l'agrandissent, elles suivent. Donc il faut aussi se poser la question de savoir si, par exemple, il faut qu'on ait les produits qui correspondent au développement des pays. Quand un pays se développe, bon, il y a plusieurs phases dans le développement. Là, il y a une accélération. De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'entreprises, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'entreprises, par exemple, dans les mines. On n'a plus d'entreprises minières en France, donc c'est normal que ce soit des autres entreprises qui le prennent, que ce soit des Brésiliens, des Américains, des Indiens, ainsi de suite. On n'a pas d'entreprises françaises dans les mines. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc c'est normal que ce soit ces gens-là qui viennent. Et les entreprises françaises, elles ont intérêt à quoi? Elles ont intérêt à ce que ces pays se développent. Enfin, les entreprises françaises qui sont présentes là-bas. Donc, plus il y a de gens qui viennent y investir, mieux c'est. Plus ça crée de la richesse, mieux c'est. Je vais raconter quelque chose que j'ai vécu il y a pas très longtemps, il y a 10 jours à Yaoundé. Nous, on a des voitures dans nos exploitations agricoles qu'on achète, c'est des Toyota qui sont vendues par un groupe français qui s'appelle CFAO. Bon. J'ai vu, on floque nos voitures, c'est-à-dire on met nos marques sur nos voitures. Et donc à Yaoundé, l'autre jour, je vois une Renault. Je dis, floquée, avec marqué sucre princesse Tati, tout ça. Je dis, mais il y a des Renault. Et oui, bien sûr, c'est une autre entreprise qui vend ça. Et c'est la première fois depuis très très longtemps que je vois en Afrique une voiture française neuve.
Fabriquée en Afrique, peut-être?
Hein?
Fabriquée en
Afrique.
Et fabriquée
au Maroc, bien sûr, et c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est ça qui est probablement l'avenir. Alors évidemment, on se dit, mais c'est une voiture marocaine. Mais c'est une Renault. Bon, donc c'est ça qui est important. Je crois qu'il faut pas, si vous voulez être défaitiste, au contraire, dire, mais c'est formidable que les autres viennent. On a été souvent dans beaucoup de pays, les entreprises françaises étaient seules. Maintenant qu'il y a des Chinois, des Brésiliens, non, mais tant mieux,
au contraire. Est-ce qu'au CIAN, vous voyez arriver des nouveaux acteurs? Parce qu'on parle toujours des mêmes. On parle de CFAO, on parle de Castel, on parle de Somdia, la Cité Générale. Ça fait longtemps qu'ils sont là-bas. Est-ce qu'il y a un vrai goût des entreprises françaises pour l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que vous le ressentez au CIAN?
Ah, écoutez, d'abord, je ressens dans les conversations des dîners parisiens. Ça, alors, c'est invraisemblable. Tout le monde parle de l'Afrique. Tout le monde veut y aller. Tout le monde dit, tout le monde a des idées. Bon. Et puis, vous avez vu récemment dans les journaux des choses nouvelles qui se passent. Carrefour qui veut s'installer en Afrique, c'est formidable.
Plutôt revenir, parce qu'ils y étaient déjà.
Revenir, voilà. L'Oréal qui vient d'adhérer au CIAN, ben c'est probablement parce qu'ils ont des plans pour l'avenir. Donc moi je suis assez confiant. Il y a les gens vont venir, les gens y vont. Et vous savez, c'est à partir du moment où il y a de la croissance, ben les gens y viennent. Moi j'ai travaillé pendant des années en Chine. Bon, dans les années 80, il y avait personne. Mais dans les années 90, moi j'étais tout seul pendant des années en Chine. Il y avait Citroën, Cronenbourg, qui était là-bas à Pékin. Et puis tout d'un coup, tout le monde est venu. Et voilà, c'est quand la croissance est là, tout le monde vient. Et là, on a une chance inouïe en Afrique. C'est que déjà, on a un stock, si vous voulez, d'entreprises françaises présentes. Ce qui n'était pas le cas dans des pays comme la Chine à l'époque, où il n'y avait aucun stock d'entreprises présentes au moment où ça démarre. Donc c'est formidable, je dirais au contraire, c'est plutôt positif.
Et une question encore, on a lu dans une interview vous concernant, que vous disiez pardon, dans une interview récente que les hommes d'affaires français avaient une mauvaise image dans la presse. Dès qu'on fait des affaires en Afrique, on est forcément suspect. Vous pourriez nous éclairer sur ce point de vue, sur cette idée?
Bon, j'ai peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on n'a pas une... Moi, quand je suis arrivé au CIAN, une de mes missions que je m'étais donnée, c'était de dire, mais c'est quand même dommage, qu'on fait des choses formidables. On fait pas forcément toutes les choses bien, mais on fait des choses formidables. On est dans des pays difficiles. Moi, mon entreprise Somnia, c'est 100% à l'exportation. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui font 100% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Ma Somnia, société française. Mais je trouvais qu'effectivement, dès qu'on parlait d'Afrique à l'époque, c'était pas très reluisant. Bon, ça commence à changer. Je pense pas qu'on y est pour quelque chose. Je pense que la croissance africaine y est pour beaucoup. Bon, mais on a essayé de montrer qu'on faisait des choses bien. Avec l'ambassadeur Jacques Mou, on a fait un bouquin sur la RSE, sur les entreprises, en tout cas, pour constater ce qu'on faisait. Et pour dire, ben voilà, on a des certifications, on essaye de faire des choses correctement, ainsi de suite. Et puis, pour donner des bonnes pratiques aux autres et aux futurs, ceux qui vont arriver. Donc, on essaye petit à petit de faire en sorte que nos entreprises soient bien vues. Mais je pense qu'on est parti pour ça. Vous voyez, il y a une chose, je suis assez franc. Vous avez parlé des entreprises du CIAN tout à l'heure, vous en avez oublié une des grandes, c'est Bolloré. L'autre jour, le président Hollande est allé visiter une usine de Bolloré. Souvent, Vincent Bolloré était très critiqué, toujours, Et puis, ben voilà, tout d'un coup, c'est devenu quelqu'un de formidable. Et moi, j'en suis très content, mais voyez que les choses commencent à s'améliorer. J'ai pas vu d'articles négatifs sur Vincent Bolloré, sur l'Afrique, au moment où François Hollande a été visiter son usine. Ce qui prouve bien, alors qu'il y a quelques années, ça aurait été le cas, ce qui prouve bien que l'Afrique redore, enfin, les entreprises françaises sont un peu re-bien vues dans les médias français.
Bolloré, on a beaucoup parlé au moment de l'attribution du deuxième terminal à conteneurs à Abidjan
pas qu'en des termes positifs. On a l'impression qu'il y a une espèce de chewing-gum qui est collé au basket des entreprises françaises, c'est la France-Afrique. Oui. Alors, à votre avis, est-ce que la France-Afrique, ça existe encore aujourd'hui?
Moi, c'est tout. Je vais être encore aussi très franc et j'espère que allons-y. La France-Afrique, c'est qui? Alors, à votre avis, parce qu'on parle toujours de France-Afrique. Et c'est amusant comme le politique français aime bien rejeter sur les entreprises leur propre problématique. La France-Afrique, les valises, soi-disant, les valises africaines, elles venaient d'où? Elles viennent d'où? Elles vont de la France vers l'Afrique ou de l'Afrique vers la France? Et elles venaient pour qui? Donc on parle toujours de la France-Afrique des entreprises. Mais les entreprises, elles ont des auditeurs, elles sont soit cotées. Vous croyez qu'elles peuvent faire des choses vraiment moches? Mais c'est pas possible. Donc arrêtons de penser que c'est les entreprises françaises qui sont en Afrique. Elles sont très loin de la France. Elles en ont marre, d'ailleurs, qu'on les mélange avec ça. C'est pas le sujet. Vous croyez que ça nous fait plaisir, nous, quand on voit des hommes politiques français qui n'ont plus de mandat ou qui ont des petits mandats et qui vont se promener en Afrique ou des missi dominici qui vont à droite ou à gauche? Je crois que ça nous fait plaisir. Ça brouille l'image de la France. C'est pas agréable pour nous.
Vous pensez à Balkany, à Guéant?
Je pense à personne. Je dis ça, vous pensez ce que vous voulez, mais moi, je dis, j'en ai marre. On a marre que les entreprises françaises soient toujours mélangées avec la France-Afrique, alors qu'elle n'a rien à voir avec ça. Les entreprises sont, la plupart du temps, sont extrêmement correctes, elles sont auditées, elles peuvent, enfin, comment voulez-vous que ça se passe? Alors après, on nous ressort toujours les entreprises, elles sont là pour gagner, elles sont là pour faire en sorte d'avoir des contrats, c'est ça qu'on nous demande. On nous demande pas d'autre chose. Alors, on essaye d'être le plus moral possible, ce qui paraît normal, mais arrêtons de mélanger toujours et de nous jeter, comme si c'était nous. Au contraire, Souvent, hein, les entreprises sont plutôt un vecteur de bon développement, de bonnes pratiques, parce que c'est comme ça qu'elles marchent. Et donc, je suis toujours très embêté à chaque fois qu'on renvoie à cette image-là.
Alors, Alexandre Villegrain, on va parler d'autre chose, du classement du CIAN. Le CIAN, chaque année, produit un rapport sur le climat des affaires en Afrique. Vous avez un classement, notamment sur les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques. Récemment, vous avez classé sur un schéma, sur une grille de 1 à 5 les pays où on pouvait faire des affaires facilement ou pas. Vous avez, quand on est à 5, on est au paradis. Et quand on est à 1, on est en enfer. En l'occurrence, les plus mal classés sont le Congo, Brazzaville, le Cameroun, la Guinée. Alors que ceux qui sont bien notés sont le Ghana, le Gabon et la Guinée équatoriale. Vous pourriez nous parler un peu de ces pays, où, peut-être pas ceux où il est facile de faire des affaires, mais ceux où il est difficile d'en faire, visiblement.
Alors, premièrement, on envoie un questionnaire à toutes les entreprises que nous connaissons dans ces pays-là. Un questionnaire sur 50 critères. La fiscalité, est-ce que vous avez eu des contrôles fiscaux qui vous semblent justes, pas justes? Est-ce que l'Internet marche bien? Enfin, l'électricité, voilà, il y a 50 questions. Et puis, les gens répondent. Et nous, on ne fait que classer informatiquement. Donc, quelquefois, ça donne des résultats extrêmement bizarres. Il se trouve que si le gars il vient d'avoir un contrôle fiscal dans tel pays qu'il considère indu, c'est clair qu'il va pas noter bien le pays. Voilà. Mais c'est unique. Alors à chaque fois, on me reproche en disant, notamment ceux qui sont mal classés, me disent, mais Monsieur Villegrain, quand même, c'est pas possible. Vous êtes un ami de l'Afrique, un ami de notre pays. Comment vous pouvez? Mais moi, je fais rien. Je ne peux simplement que dire aux administrations des différents pays, bah faites attention, justement, ces notes, elles comptent. Donc faites gaffe à bien vous comporter quand pour les entreprises à qui on envoie les questionnaires. Bon, mais donc d'abord, moi, je classe rien. Après, est-ce qu'il est plus difficile ou moins difficile de faire des affaires selon le classement? Bah, j'en sais rien, ça c'est aux entreprises de décider. Moi, il se trouve que pour avoir travaillé dans ma vie dans des pays très compliqués et dans des périodes aussi très difficiles, et pas en Afrique, mais dans d'autres pays, vous savez, l'Afrique est pas, et les pays d'Afrique sont pas plus compliqués que plein d'autres. Bon, alors on peut peut-être les mal classer. Moi, je trouve simplement qu'au fur et à mesure des années, et vous pouvez regarder sur le classement, les choses vont mieux. Alors, le problème, souvent, c'est l'exigence qu'on a. Il y a une double réflexion. C'est, est-ce que les choses s'améliorent? La réponse est oui. Est-ce qu'elles s'améliorent aussi vite qu'on voudrait? La réponse est non. Voilà. Mais les choses s'améliorent. Mais toutes les entreprises voudraient que ça soit tout de suite
le paradis.
Voilà, le paradis. Non, c'est comme ça. Mais grosso modo, ça va quand même mieux.
Oui, ce que vous dites, c'est que vous partagez pas forcément exactement l'analyse ou les conclusions de ce rapport en termes de différence de climat des affaires. Mais si on en vient au vrai problème pour les entreprises en Afrique, dans les zones où vous travaillez, c'est quoi le problème le plus aigu en termes de climat des affaires?
Moi, je crois que c'est un peu un problème mondial, c'est-à-dire que il faut que les gouvernements soient constants dans ce qu'ils décident. Parce que vous ne pouvez pas faire une politique industrielle ou agricole dans un bout de développement si vous n'avez pas une stabilité, quelle qu'elle soit. C'est difficile de considérer ça. Mais si vous n'avez pas de la longueur, vous n'avez une stabilité du cadre, ce qu'on appelle du cadre réglementaire, ben vous avez personne ne vient parce qu'il dit, mais est-ce que je vais faire ça, mais derrière je vais me faire avoir ou... Donc il faut de la stabilité. Or, l'Europe, par exemple, ou les États-Unis, les continents qui peuvent être un exemple pour les pays en voie de développement, donnent pas fondamentalement l'exemple de quelque chose, d'un continuum, si vous voulez, de regardez ce qui se passe aux États-Unis. Je parle pas de l'Europe, de la France, pour éviter de polémiquer, mais regardez le shutdown aux États-Unis. C'est pas un truc très simple pour des investisseurs. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va pas? Ainsi de suite. Ben, voilà. Il faut de la stabilité. Si vous voulez du développement, il faut de la stabilité. J'ai travaillé pendant 18 ans de ma vie en Asie, et je sais qu'est-ce qui a fait le développement en Asie. C'est un peu ce qu'a... Alors, les gens critiquent beaucoup ça, mais c'est ce qu'a fait la fortune de l'Asie. C'est Lee Kuan Yew, c'est le premier ministre de Singapour, qui a décidé qu'à un moment donné, bah, il fallait... À partir du moment où on décidait quelque chose, on s'y tenait, et regardez ce que ça a donné. C'est-à-dire que même la Chine communiste, elle a dit, bah voilà, je veux me développer comme ça, dans tel secteur, et ça donne des résultats formidables.
Alexandre Villegrain, on va changer un peu de sujet pour parler une dernière fois quand même du climat, non pas des affaires, mais du climat général en Afrique, du climat sécuritaire. Est-ce que, selon vous, les entreprises françaises, à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, sont devenues des cibles de choix pour les terroristes? Est-ce que vous avez, vous, en tant que représentant de ces entreprises françaises en Afrique, des appréhensions par rapport à tel ou tel pays?
Oui. C'est clair que, d'abord, la sécurité est quelque chose qui est rentré dans les groupes. Nous avons, par exemple, aussi une commission sécurité maintenant. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas, il y a un vrai sujet. Alors, on voit ce qui se passe au Nigeria, ou ce qui s'est passé au Mali, ou ce qui... Boko Haram avec le Nord Cameroun, Tchad, c'est des choses qui nous parlent. Ce qui se passe en RCA, moi j'ai passé 3 jours en RCA, il y a 10 jours j'y retourne dans pas très longtemps. C'est assez angoissant, parce que vous vous dites, mais je peux être pris dans un bazar pas très agréable. Donc effectivement, c'est quelque chose qui rentre, qui devient un coup, qui n'en était pas un. Il faut faire attention. Moi je faisais pas attention, maintenant je fais attention. Mes collaborateurs et les gens qui travaillent avec moi font plus attention. On a quelqu'un maintenant, par exemple à la Somdia, qui s'occupe spécifiquement de la sécurité. Ce qui n'était pas le cas avant. Les ambassades, en plus, françaises, sont très conscientes de ça et vous préviennent. Donc, on est pris dans un système psychologique qui fait qu'on fait plus attention. Et probablement, les menaces existent.
Alors, on va parler agriculture et agroalimentaire avec vous, Alexandre Villegrain, sur la qualité du paysan africain. Vous avez, il y a quelques mois, à Libreville, vous êtes intervenu en tribune pour vanter la qualité de ce paysan africain. Pourquoi est-il méritant, ce paysan, sur ses champs de coton, de maïs ou d'arachide?
C'est parce que c'est la vérité. Je crois qu'il y a quelques années, j'avais écrit ou j'avais dit « le paysan africain est le meilleur du monde ». Il y a quelques années. Et je le crois toujours, parce que les gens ont peu de moyens. On peut pas dire que les gouvernements aident à ce qu'ils se structurent en coopérative, donc à céder. Au contraire, voilà, ils ont pas de propriété, donc difficilement il y a pas de droit hypothécaire pour pouvoir mettre sa terre en hypothèque pour acheter un tracteur ou des moyens. Donc voilà, et ils arrivent à produire. Bon, alors ils arrivent pas à produire suffisamment aujourd'hui pour que l'Afrique soit autosuffisante, mais ils arrivent à produire. Donc dans ce sens-là. C'est des paysans extraordinaires. Et moi, j'en connais.
Vous parlez des paysans, mais si on parlait des gouvernements, justement, il y a 10 ans maintenant, la déclaration de Maputo, qui disait que 10% du budget des États en Afrique devait être consacré à l'agriculture. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est même pas à la moitié de ce chiffre-là. Alors qu'on parle beaucoup de sécurité alimentaire, est-ce que c'est pas justement une négligence criminelle de ne pas investir davantage dans l'agriculture en Afrique?
Alors que ça soit une négligence criminelle, je peux souscrire. Parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Bon, maintenant, la production agricole africaine, je crois, augmente. Maintenant, ça ne suffit pas. Le problème, c'est que, aussi, nous sommes confrontés à un sujet du marché mondial. C'est clair que produire soi-même, ça coûte, ça demande des efforts, ça demande une protection. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est quand même l'Afrique qui passe, c'est pas des gens riches. Donc le prix de vente des produits compte beaucoup. Et donc les gouvernements sont terrorisés. Vous avez l'exemple des printemps arabes qui tous ont démarré, parce que personne ne s'en souvient. La Tunisie, je vous rappelle simplement, c'était les prix. L'Égypte, c'est les subventions qui ont fait sauter, qui voulaient supprimer. La Libye, c'est les subventions sur la farine et le sucre que Kadhafi voulait supprimer. Ces moments-là ont été d'abord des réponses à des augmentations de prix à des fins de subvention. Donc bien entendu que les pays africains, ils sont... Et logiquement et normalement terrorisé. Regardez ce qui se passe au Soudan. Dès qu'ils arrêtent les subventions, c'est l'horreur absolue. Il faut sortir de cette dictature du consommateur dans lequel le politique est terrorisé pour passer au moins à un équilibre avec le producteur. Parce que si vous ne protégez pas votre industrie agricole, bah elle viendra du Brésil et vous aurez rien.
Donc il faut quoi? Il faut une politique agricole commune africaine?
Bien entendu. Et c'est ce que je dis, c'est
que... Il n'y a pas un État, il n'y a pas un gouvernement qui a eu cette idée-là?
Si, parce que l'UMOA, la CEMAC, on essaye de faire en sorte que... Enfin, on essaye, pas moi, mais de faire en sorte qu'ils aient... Ils parlent entre eux, justement, pour que les uns spécialisent et que... Parce que qui dit production agricole dit obligatoirement discussion avec le voisin. Parce que si tout le monde fait du maïs, ça sert à rien. Donc, moi, je suis plutôt, j'ai de l'eau à cette époque-là, je peux faire ça. Toi, tu peux faire ça, tu peux faire du coton, tu peux faire de l'huile de coton. Voilà. Il faut qu'il y ait obligatoirement cet échange-là. C'est grosso modo ce qui est en train de se passer.
Il y a des centaines de millions de terres arables en Afrique. Aujourd'hui, on en entend parler constamment. On dit que c'est peut-être le futur grenier du monde. Et en même temps, on dénonce ce qu'on appelle l'accaparement des terres, c'est-à-dire des hectares qui sont achetés pour produire, alors soit, je sais pas, des biocarburants, par exemple, en Sierra Leone, ou alors pour produire de la nourriture pour envoyer en Asie, et pas forcément pour nourrir la population locale. Est-ce qu'à votre avis, c'est un véritable phénomène?
On généralise beaucoup. La vraie histoire, c'est quoi? Ça a commencé, je vous rappelle, à Madagascar, avec les Sud-Coréens qui avaient acheté, je sais pas combien, 400 ou 600 000 hectares. C'était le premier cas. Hein, c'était il y a 7-8 ans. On a vu comment ça s'est terminé. Un gouvernement a sauté, et les Coréens n'ont jamais eu le... Et ces terrains-là, ils sont à vendre ou ils étaient alloués depuis des années et des années. J'ai même eu la Somdia, il y a 25 ans, a eu ce dossier-là.
Bon. Enfin, il y avait un sérieux problème de titre foncier.
Hein, en plus, il y avait un problème de titre foncier. Mais enfin, bon, voilà. C'est compliqué parce que dans la canne à sucre, on a des grandes exploitations qui appartiennent à l'État, qui ne nous appartiennent pas. Donc on loue à l'État, on nous accuse quelquefois de faire de la carpe parmentaire, mais on fait de la canne à sucre dessus, on emploie des gens. Et je vais la faire où? Alors quelquefois on s'arrange avec les villages, on essaye de trouver des situations, des solutions pour les gens, parce que je vous signale simplement, personne ne va aller cultiver en Afrique quelque chose sur le terrain d'un autre. Je vois pas d'exemple de gens qui arrivent avec des bulldozers pour enlever des... vous les prévenez en avance, vous dites, voilà, moi je vais faire mon champ de canne là, vous faites du manioc, ben on va vous essayer de vous trouver un autre endroit ici, ainsi de suite. On essaye que ça soit le plus humain possible, bien entendu.
Oui, il y a quand même des exemples concrets dans la zone office du Niger, au Mali par exemple, il y a eu des décarpissements de paysans qui avaient ou qui n'avaient pas de titre foncier et à qui on a demandé de partir pour libérer l'espace pour faire du riz. Vous avez été épinglé par les ONG
bien
au Cameroun.
Mais si vous voulez, mais arrêtons de prendre des arrêtons. Je vais vous dire. Bon, quand vous faites le TGV, je dis, prenons les exemples où là où ils sont. Quand vous faites le TGV qui va aller à Bordeaux,
on y met peut-être plus les formes en France qu'on ne le fait.
Mais pourquoi voulez-vous qu'en Afrique on mette pas les formes? Le problème, on a des. Attendez, non, mais parce que tout le monde.
Parfois les autorités.
Vous y allez, vous. Ouais. Non, je suis désolé, mais les gens, ils vont. Ben, moi, je pose la question à Jeune Afrique. Vous avez des journalistes africains. Bon, passez-y du temps. Les gens, moi, je les vois, les journalistes européens, ils viennent, ils prennent l'avion du lundi, ils reviennent le vendredi. Et puis, de ça, ils nous sortent des trucs en disant, mais venez discuter avec les gens, allez voir les certificateurs, parce que c'est pas le tout d'aller interviewer quelqu'un qui est pas content qui est pas content dans un village, ainsi de suite. Il y a toujours des gens pas contents. Et quand vous allez voir le TGV qui va à Bordeaux, vous allez interviewer un paysan à qui on vient de prendre son champ de maïs, mais qu'on a indemnisé, ainsi de suite, parce que c'est... Bah, alors, évidemment, ça va être l'horreur absolue, mais allez voir les gens, on essaye de faire les choses le plus humainement possible et le plus juste possible. Je vais vous dire une chose. Dans les yeux. On peut plus dire en France les yeux dans les yeux parce que ça fait vraiment, ça fait gros menteur.
Les yeux dans les yeux.
Mais j'ai des enfants aussi. Enfin, vous croyez que j'ai des enfants qui sont sur Internet. Et vous croyez qu'on fait pas attention, des salauds? Non, mais on a l'air souvent de le penser.
On ne dit pas ça, mais il y a peut-être un problème de méthode, en tout cas, en soi. Mais non pas forcément des opérateurs économiques, mais des États qui sont en...
Mais les États, ils font ce qu'ils peuvent. Aussi, toujours, on a...
Est-ce que les États ne pourraient pas déjà instaurer des titres fonciers pour toutes les terres?
Non, mais ça, c'est autre chose.
Non, c'est le problème.
Non, mais alors, on y travaille. Alors, ça, c'est un autre dossier. Et on en parlait tout à l'heure quand je vous disais le paysan n'a pas de titre foncier. Ça, c'est très vaste. C'est un sujet qui est effectivement primordial. C'est la réforme foncière en Afrique. Effectivement, l'agriculture, elle va se développer s'il y a des titres fonciers. Or, en Afrique, vous avez plusieurs droits qui se superposent. Et vous ne pouvez pas éliminer un droit.
C'est-à-dire qu'il y a des droits coutumiers, il y a des droits...
Voilà. Il faut que les respecter chacun. Alors, nous, dans notre problème cartésien, on voudrait que, bon, le terre, ça soit un champ, quatre chemins, et voilà, et là, j'ai un titre foncier. Bon. En Afrique, c'est compliqué, parce que, il y a un droit coutumier, il y a quelquefois plus, il y a les droits d'État, souvent, c'est des anciens pays communistes, donc, ils étaient propriétaires de tout, ou qu'ils ont nationalisé, et qui sont redevenus des droits villageois, parce qu'il y a les droits coutumiers et les droits villageois. Donc, c'est très compliqué. Et il faut pouvoir respecter tout ça. Donc, il faut faire ça très intelligemment, très doucement, et essayer de réfléchir avec les notaires. C'est ce qu'on a commencé à faire en France et les notaires africains sur ce titrement pour essayer d'avancer. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Petit à petit, ça va se faire. Et au fur et à mesure, ça va se faire.
Moralité, les choses avancent selon vous, monsieur Vigrin. Il faut aussi qu'on avance dans l'interview, si vous le permettez. On va parler force de frappe française économique. En Afrique, nous avons au sein de ce gouvernement une ministre du commerce extérieur, Nicole Brick, qui va souvent en Afrique. Mais elle va plutôt en Afrique anglophone. Elle a commencé par le Kenya. Elle est allée récemment au Nigeria. Est-ce que, d'après vous, elle a raison d'aller faire la promotion des entreprises françaises dans ces pays anglophones?
Bien sûr. On va toujours défendre les entreprises françaises. Non, ce que je trouve, si vous voulez, très bien, mais j'ai été extrêmement étonné il y a 2 ans, quand on a fait le truc, c'était la diplomatie économique du ministre d'État, Laurent Fabius. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on réclame. C'est-à-dire que nous, on voit, nous, les entreprises, que ça soit en Afrique ou ailleurs, les autres pays, les Allemands, les Américains, toujours l'ambassadeur est derrière les boîtes. Toujours. Toujours. Il n'y a pas de sujet. C'est on est derrière, on est une équipe. Et en France, depuis beaucoup d'années, c'est pas forcément ça. C'est non, mais nous, on veut pas se mêler, on veut pas faire du business. Nous, on est l'administration française, on veut pas se salir les mains.
On touche pas à ça.
On touche pas à ça. Ça a changé. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un changement de mentalité pour tout le monde. C'est formidable. Les ambassadeurs, ils sont derrière nous et devant nous quelquefois. Et c'est plutôt agréable. Et donc ça, j'ai trouvé que cette philosophie-là était bien.
Mais est-ce que vous ne pensez pas ou vous ne craignez pas qu'il y ait un problème de cohésion, de cohérence depuis peu? Le ministre des Affaires étrangères s'est doté d'un conseiller justement au marché extérieur pour le continent africain. Il y a donc une école BRIC pour le commerce extérieur, il y a UbiFrance, il y a l'émission économique. Enfin, il y a une profusion d'outils ou de relais possibles. Et du coup, on se dit qu'une petite PME française qui se tournerait vers l'Afrique risque de se paumer un peu.
Ça, c'est compliqué, oui, effectivement. Mais ça, c'est toujours été le problème de l'État français, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire des trucs simples. Mais effectivement, c'est un dispositif extrêmement compliqué. Et en plus, qui vient se rajouter aux chambres de commerce locales et aux trucs et au bazar, enfin tout le millefeuille français. Alors, je peux pas.
Il faut simplifier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Je peux pas vous dire. J'en sais rien. Ce qu'il y a, c'est que ça apparaît effectivement très très millefeuille et très. Alors, il y a sûrement dans chacun des partis des gens très très utiles, mais probablement effectivement le travail en commun, le regroupement, la fusion de différents services me paraît. Vous en êtes un peu un exemple. Hein, RFI aussi. Il y a un moment donné, il faut regrouper les équipes, faut regrouper. Probablement, je pense que dans les services de l'État à l'export, il y aurait certainement quelque chose à faire. Parce que c'est un peu compliqué.
Alexandre Villegrain, le PDG de Somdia et président du CIAN, était donc notre grand invité d'économie, RFI Jeune Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Alexandre Villegrain. Merci à Romain Ferré et Benjamin Abayou pour la réalisation de cette émission. Je rappelle que vous pouvez réécouter et voir cette interview sur nos sites internet respectifs, rfi.fr et jeuneafrique.com. Bonne journée à tous.